Commençons par un mot de prière ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu. Et la plus grande part de tes enseignements que l'on peut trouver dans ce monde se trouve déjà dans la Bible, que l'Esprit Saint peut nous aider à comprendre et à mettre en pratique. Seigneur, nous invoquons ton nom, nous invoquons ta grâce sur ce temps, que tu nous aides à mieux comprendre ces enseignements qui ont traversé les siècles, qui ont traversé les cultures, qui ont traversé les empires, qui ont traversé toute l'histoire humaine dans sa profondeur depuis plus de 3000 ans. Merci Seigneur de nous aider à la rendre vivante dans nos cœurs, afin que ce soit une rencontre non seulement avec des personnages qui ont existé, mais avec toi Seigneur, afin que tu nous guides, que tu nous guides dans le concret de nos journées, le concret de nos semaines. En ton nom je prie Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que au niveau du volume sonore, il n'y a plus de pluie, donc on entend bien là, il n'y a pas besoin de micro. Alors je vous donne des outils. Ces outils, je vais vous demander, en particulier pour celui-là, le petit graphique, gardez-le dans vos Bibles. Sachez que dimanche prochain, quand vous venez, je m'attends à ce que chacun ait sa Bible avec soi. D'accord? Ça marche? Comme ça, en même temps, je vous encourage à aller la visiter, à l'aérer même le dimanche. Donc, pensez à prendre vos Bibles chacun. Ici, avec un petit graphique, vous avez un résumé de l'ordre des livres. Comment est-ce que les livres sont organisés? Je me rappelle quand j'étais un tout jeune chrétien, c'était un casse-tête pour moi de trouver certains passages. Bon, les évangiles, petit à petit, je savais où c'était. Mais quand on me disait un Thessalonicien, quand on me disait Esdras, alors là, c'était le casse-tête. Est-ce que c'est dans l'Ancien? Est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Où est-ce qu'on va chercher? Avec ce petit graphique, le but, c'est de vous donner un ordre. Vous voyez qu'il y a une petite ligne grise qui parcourt tout le dessin. Sandra, tu n'as pas? Avec cette petite ligne, vous pouvez arriver à suivre l'ordre des livres de la Bible. Non seulement ces livres ont un ordre, mais ensuite il y a des groupements. Vous avez par exemple la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Vous m'avez déjà entendu dire, quand vous lisez loi dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça veut dire?
Torah.
Et qu'est-ce que ça veut dire Torah?
Enseignement.
Rappelez-vous, enseignement. Ça va vous éviter beaucoup de casse-têtes inutiles, parce que c'est le sens de l'original. Enseignement. Un enseignement a besoin de deux choses. Un enseignement, ça a besoin d'un enseignant, et je me réjouis d'écouter d'où viennent ces rires bientôt, et de quelqu'un qui est enseigné. Une relation. On va continuer ensemble, en se réjouissant de cette pluie qui est une bénédiction pour l'île, même si le problème de toute bénédiction est très simple. C'est comment est-ce qu'on canalise cette bénédiction pour qu'elle ne soit pas destructrice, mais qu'elle puisse apporter ce dont on a besoin aux endroits où on en a besoin. Donc, prions pour que la pluie à la Réunion soit bien canalisée, qu'elle ne détruise pas les routes, mais qu'elle arrose les champs où il faut. Et on peut prier pour le sud de l'île pour qu'on puisse partager avec eux cette bonne pluie. Alors, vous avez donc la structure de la Bible. Torah, comme je vous disais, c'est enseignement. Enseignement a besoin de deux choses. Un enseignement a besoin d'un enseignant et d'un élève. Vous ne pouvez pas avoir d'enseignement sans ces deux éléments. Ce qui veut dire que enseignement sous-entend une relation humaine entre une personne qui parle et une personne qui écoute. N'oubliez jamais ce point d'une grande simplicité. Quand vous lisez la Bible, c'est pour recevoir un enseignement. Pourquoi est-ce qu'on prie avant de lire la Bible? Pour dire « Seigneur, je crois que tu veux m'enseigner. Parle-moi, Seigneur, je veux ouvrir les oreilles de mon cœur. Je veux ouvrir mon attention à toi qui veux me parler à travers ce texte. Je ne suis pas là pour décortiquer en morceaux un texte ancien, pour dire que ça se groupe en 3 morceaux, en 3 parties. Je suis là pour écouter une histoire, écouter un enseignement, recevoir une parole de quelqu'un à qui je donne autorité. C'est ça, un enseignement. Et la Torah, c'est l'enseignement de Dieu pour le peuple de Dieu Israël. Alors là, je vous fais passer sur ce grand graphique. Vous remarquerez qu'il y a un peu plus de matériaux. Sur le petit, il est simplifié. Le grand, il est un peu plus chargé. Alors vous inquiétez pas, c'est juste pour vous accompagner. Il va nous accompagner toute cette année, ce graphique. Parce qu'on va parcourir la Bible en même temps que vous la parcourez, vous, dans votre culte personnel, dans votre temps de méditation de la parole. Je vais vous accompagner du mieux que je peux, ainsi que les personnes qui prêcheront, pour que vous puissiez toujours plus intégrer les points clés de ce qui est enseigné. La Genèse, le sous-titre, c'est « Création du monde, création du peuple de Dieu Israël ». Ça va être le sujet de notre première visite d'un texte, d'un livre biblique cette année. Maintenant, vous pouvez basculer avec la deuxième petite carte. Les deux premiers, si vous pouvez plier cette feuille dans vos Bibles et garder celle-là avec. Alors ça, c'est une photo. Donc si vous la mettez la face contre une page très fine, vous avez un risque que ça colle. Donc je dirais, mettez-la la face brillante contre, par exemple, le papier de celui-là de graphique plié, pour éviter d'avoir une page qui devient collée. Alors maintenant, si on va à la Genèse. Dans la Genèse, je vais parcourir l'histoire de Genèse. Dans Genèse, vous avez finalement l'histoire de différentes personnes. Vous voyez que le graphique fonctionne toujours de la même façon. Il y a une ligne grise qu'on suit. Et en même temps qu'on suit la ligne, on arrive sur des chapitres. On commence avec le chapitre 1 en haut à gauche. 2, 3, 4. 1 à 4, vous voyez, c'est... En bleu, le titre, c'est quelle personne qu'on rencontre? De 1 à 4. Qui est-ce? Voilà. Donc si vous voulez avoir une personne clé pour ce premier chapitre, Adam. Vous pourriez dire aussi Adam et Ève. Ensuite, les chapitres 5 à 10, ça sera l'histoire de Noé. Ensuite... On a un gros paquet là, on a de 11 à 23, ça sera l'histoire très importante de Abraham. Abraham, et on peut dire Abraham et qui? C'est qui l'épouse d'Abraham?
Sarah.
Ensuite, vous avez une histoire assez brève, qui est l'histoire de Isaac, des chapitres 24 à 27. Vous voyez que c'est une nouvelle tranche. Ensuite, vous avez une tranche supplémentaire, c'est 28 à 36, Jacob. Et ensuite, 37 à 50, qui est-ce? Joseph. Est-ce que vous arriveriez à vous rappeler de tous ces personnages clés, des noms de ces différents personnages? Une façon que vous pouvez utiliser est une façon alphabétique. Le nom de Adam commence par la lettre A. Ensuite, vous avez Noé qui est une interlude avec... Le deuxième personnage qui a une lettre, un nom qui commence par A, ça sera Abraham. Donc vous pouvez vous rappeler Adam, Noé, Abraham, ça vous arriveriez? Vous répétez avec moi? Adam, Noé, Abraham. C'est les trois premiers. On est toujours sur le A. Ensuite, ça sera les trois suivants. Vous avez remarqué le nom de Isaac, ça commence par I. Ensuite, vous avez Jacob et Joseph. I, J et J. Et même entre Jacob et Joseph, c'est par ordre alphabétique. Jacob, Joseph. Vous n'avez aucune raison pour ne pas vous rappeler l'ordre de ces six personnes. D'accord? Donc on va s'amuser ensemble, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous pouvez vous rappeler les trois suivants? Isaac, Jacob, Joseph? Est-ce qu'on peut cacher la feuille? Alors on va faire un jeu. Vous êtes prêts? Si on ne sait pas, on réfléchit. Puis après, vous pouvez passer la main. Si vous ne savez pas, vous choisissez la prochaine victime, d'accord? Donc, vous souffrez un peu et vous partagez cette joie de souffrir pour apprendre la parole de Dieu avec quelqu'un d'autre si vous ne savez pas. Alors, on va faire une chaîne. Je commence par quelqu'un et ensuite vous posez la question au suivant. Sandra, c'est qui la troisième personne dans l'Ancien Testament? C'est déjà dans la première moitié, c'est qui?
Abraham.
Maintenant, tu vas poser la question à Sandrine. Joseph. À toi, Sandrine.
La première personne de la Genèse.
Adam. La première personne de Genève, c'est Adam.
La première personne de la deuxième partie.
La première personne de la deuxième partie. La première personne de la deuxième partie. Donc la quatrième en tout.
Isaac.
Très bien. Deuxième personne de la première moitié. Ça va être Noé, très bien. La deuxième personne de la deuxième moitié. C'est bien, Anis, tu as raison, c'est le J. Alors le dernier, c'était Joseph, et celui qui est juste avant, ça commence par J-A. Anis, t'as le droit, t'as presque trouvé. Mais si tu veux passer la main, tu choisis quelqu'un qui va dire la suite. Donc J, c'est déjà, tu es bon. Jacob, tu étais presque, hein, Anis. Juliette, à toi, t'as encore deux personnes avec qui tu peux partager. Hein? Tu peux recommencer, tu peux redemander. De 1 à 6, ou de première partie, deuxième partie. Deuxième personne de la première moitié.
Noé.
Noé. La dernière personne, Joseph. Alors, ensemble, toujours avec le graphique caché, tous ensemble, c'est qui la première personne de Genèse dans notre graphique?
Adam.
La deuxième personne importante? La troisième? La cinquième?
Jacob.
Vous verrez, je suis un peu rusé. Avec moi, ça va. Vous apercevrez. Je n'aime pas l'apprentissage linéaire, j'aime bien qu'on aille dans le désordre. Donc la cinquième, c'est quoi déjà?
Jacob.
Ah, j'ai oublié la quatrième. C'est quoi la quatrième?
Isaac.
La sixième? La troisième? La première? La quatrième? La quatrième?
Isaac.
Voilà, la première personne de la deuxième moitié, c'est le I. La cinquième personne? Jacob. La sixième? La deuxième? C'est qui les deux qui commencent par A? C'est qui les deux qui commencent par J? C'est qui les deux qui manquent?
Noé.
Ok. Alors, pendant cette semaine, amusez-vous, et même avec les enfants, vous pouvez jouer si vous voulez, à leur faire apprendre les six personnes clés de Genèse. Maintenant, nous allons parcourir ensemble leur histoire à chacun. La première histoire, c'est les chapitres 1 à 4. Ça va être l'histoire d'Adam, ça va être l'histoire du commencement de l'humanité. Et l'humanité commence par la parole de Dieu. Elle commence par la création du monde. On ne commence pas par Adam d'abord, on commence par Dieu qui parle, qui va dire que la lumière soit et la lumière fut. C'est très important, Dieu est parole. Dieu, quand il parle, ça se réalise. Il dit que la lumière soit et la lumière apparaît. Jusqu'au XXe siècle, les non-croyants se moquaient des chrétiens en disant, et les juifs par la même occasion, en disant, ils sont vraiment stupides. Ces gens, ils croient que Dieu a créé la lumière avant de créer le soleil. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Il faut d'abord le soleil avant de créer la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Comment est-ce qu'il y aurait de la lumière s'il n'y a pas de soleil? Comment on peut faire ça? C'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait une matière qui rayonne de la lumière, et puis ensuite la lumière, elle va arriver. Vous êtes d'accord, c'est du bon sens, hein? Et bien ce bon sens a été remis en question depuis le début du XXe siècle avec Einstein, qui a commencé à dire qu'il y avait une équivalence entre masse et énergie, entre matière et lumière. première révolution scientifique au début du XXe siècle, entre les années 1905-1912. Et non seulement il y a ça, mais ensuite il y a une deuxième révolution. L'univers n'était pas stable, mais on découvre qu'il est en expansion. Et s'il est en expansion, ça veut dire qu'il gonfle comme une éponge. C'est-à-dire que si on remonte dans le passé, il dégonfle, comme un ballon qu'on dégonfle. Si on dégonfle un ballon tout le temps, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps ? Il va être un tout petit endroit. Et l'univers, la conclusion à laquelle les scientifiques sont aujourd'hui, c'est que l'univers a eu un moment où c'était une soupe d'énergie, une soupe de force. Et vous savez comment est la forme de l'énergie au démarrage ? C'est de la lumière. Avant d'être matière, notre univers était lumière. Avant d'être matière physique, notre univers était lumière. Et si on lit le Genèse, on se dit, c'est marrant quand même. Dieu dit qu'il commence avec la lumière et qu'ensuite il va s'occuper de créer le soleil. Eh bien aujourd'hui, c'est loin d'être stupide. Au contraire, c'est même ce que les théories modernes, ça va encore bouger parce que c'est des choses qu'on ne sait pas bien, mais on voit que ça, c'est très cohérent d'imaginer que la lumière vienne avant la matière et que la lumière ensuite devient matière. Et donc, c'est un point que vous pouvez vous rappeler. Dieu commence par parler et commence par la lumière. Et la lumière est une des images qu'on utilise pour Dieu. Dans la première épître de Jean, on dit que Dieu est lumière. Donc il va créer par sa parole, il va créer le monde, et ensuite, le couronnement de ce monde, ça va être l'humanité. Il va créer Adam et Ève. Adam et Ève. Adam, ça vient du mot Adama, qui en hébreu veut dire terre, poussière du sol. Parce que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Des fois, il y a des gens, il y a un siècle, qui étaient humiliés parce qu'on disait que l'homme descend du singe. Moi, je préfère vous dire, l'homme monte de la poussière. On vient non seulement de très loin, mais on vient de la poussière. Dieu nous a créés à partir de la poussière. Et de cette poussière, il a fait venir l'homme, l'être humain. Et on dit ensuite, des fois qu'on ne connaît pas l'hébreu, on dit, oui, Dieu, il a tiré une côte d'Adam et il en a fait Ève. Vous êtes d'accord ? Hein, c'est ce qu'on connaît, hein ? Est-ce que vous savez quelle côte il a tiré ? Elle venait du côté gauche ou du côté droit ? Une côte petite, là, celles qui sont flottantes, les côtes flottantes, ou une des côtes du haut ? Parce que ça a dû faire mal quand même de tirer une côte de Adam. Attends, Adam, je te mets dans un bon sommeil, je vais te faire de la chirurgie. C'était le premier exemple de chirurgie divine. Il tire un bout de côte et hop là, après, il a l'ADN, il recrée un clone avec, mais avec quelques petites différences quand même. Non, c'est pas comme ça que Dieu a fait. Le mot hébreu, donc dans l'original du texte, n'est pas une côte, c'est presque pareil. Un côté. Quelle est la différence entre tirer une côte et un côté ? Est-ce qu'un être humain il peut fonctionner avec une côte en moins ? On peut vivre. Si on coupe tout un côté, est-ce que je peux continuer à vivre ? Non. L'homme n'est pas beaucoup plus important que la femme. L'homme et la femme sont des partenaires. Ils ont été tous les deux recréés quelque part à travers le sommeil d'Adam en tant que partenaires d'alliance. Et nous allons le voir plus précisément dans l'histoire d'Abraham plus loin. Le collègue d'Adam de plus tard qui a un nom qui commence par A aussi. Et Adam finalement, donc d'un premier chapitre, c'est les 6 premiers jours de la création. Deuxième chapitre, Dieu va se reposer. Et on revoit l'histoire du premier chapitre avec maintenant non plus une concentration sur le regard de Dieu, mais sur l'humanité. Parce que ça va être la concentration de toute la Bible. Comment Dieu touche et enseigne l'humanité pour être les représentants de Dieu sur terre. L'humanité est appelée à être représentant de Dieu sur terre. C'est un rôle important ça, représenter Dieu sur terre. Ça veut dire manifester la justice de Dieu, manifester la droiture de Dieu. Alors certains écologistes commencent à prendre conscience que, et pas mal de personnes dans notre société occidentale prennent conscience que la nature est limitée. On ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, pour toujours. Elle a des ressources limitées. Et on prend conscience toujours plus qu'on doit en prendre soin. La révolution industrielle, c'était, on a tellement de ressources, il suffit de creuser pour trouver des mines, pour trouver des ressources supplémentaires et faire des choses supplémentaires. Aujourd'hui, on prend conscience il y a des limites. Alors prendre conscience qu'il y a des limites n'est pas suffisant pour venir à Dieu, mais ça peut être une étape de prendre conscience qu'on doit être des bons gestionnaires de cette terre. C'est le rôle de Adam qui est mis dans le jardin, la terre, et Dieu lui donne un travail. Dieu ne lui dit pas « tu vas dormir toute la journée », il lui dit « tu vas travailler ». Dans la foi chrétienne, le travail est une bénédiction. Le travail est un commandement de Dieu, non pas un travail épuisant pour nous tuer la tâche, mais un travail pour prendre soin de cette création. Tout comme Dieu a créé et a travaillé pendant 6 jours, l'être humain est appelé à imiter Dieu. Et le travail est vu positivement. Maintenant, il va y avoir un problème. C'est le chapitre 3, la chute. Dans ce monde harmonieux, il va y avoir un problème. Il y a quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient, le serpent. Il parle à Ève et il lui dit « Vous n'avez pas le droit de manger des fruits du jardin. » Et Ève lui dit « Non, non, tu n'as pas raison, on a le droit. Il y a seulement un fruit dont on n'a pas le droit, c'est celui-là. » Le diable, dans la tentation, il utilise toujours cette technique. Vous concentrez sur ce qu'il ne faut pas faire. Vous concentrez votre esprit sur ce qu'il ne faut pas faire. Dès que vous commencez à concentrer votre attention sur ce qu'il ne faut pas faire, vous allez méditer sur la chose. Et plus vous allez méditer, plus vous serez tenté de le faire. Regardez comment les enfants font. Il y avait le petit Loris qui se promenait. Il est un exemple, je dirais, d'un enfant. Et il va venir vers son petit frère. Et là, c'est dangereux. Et Thierry, vous voyez à ce moment-là qu'il y avait un moment dangereux. Loris va se concentrer sur son petit frère, il va se dire « je vais lui piquer son jouet ». Plus ou moins, hein. C'est un exemple pour nous les adultes. Je dirais, c'est simplement que Loris est un enfant. Mais la dynamique est la même que la dynamique du péché. Je me concentre sur quelque chose, je sais que j'ai pas le droit de faire. Dans ce cas-là, je pense que vous avez dû lui dire « embête pas ton petit frère ». Et là, le petit va se dire « ah, il regarde ». Et son regard développe une pensée, un désir. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Souvent, si il n'a pas en lui cette morale, cette conscience qui se construit progressivement, en général vers l'âge de 3-4 ans, ça commence à se construire, bien qu'il commence à comprendre des choses avant, et ça sera non, ça, ce n'est pas bon. Je vais concentrer mon attention ailleurs. Ça, c'est la chute. Et le serpent va utiliser avec Ève cette méthode. Il va lui dire, regarde ce fruit. Et Ève commence à regarder. Elle voit qu'il est bon. Beau à regarder et qu'il doit être bon à manger. Comment elle sait qu'il est bon à manger ? Elle ne le sait pas, elle se l'imagine. Et la tentation est faite de moitié de réalité, moitié d'imagination. Toujours, la tentation, c'est on s'imagine que ça va être très bon. Comment marche l'adultère ? Un homme se sent pas assez proche de sa femme, il va au travail, puis il y a une gentille dame qui lui parle et puis qui le console, qui lui dit « ah oui, t'as pas de chance ». Il commence à se confier là où il ne devrait pas se confier. En général, c'est les premières étapes. Ensuite, il s'imagine qu'avec elle, ce sera mieux qu'avec sa femme. Deuxième erreur, ça ne sera pas meilleur. Les problèmes qu'il a avec la première, il va juste les redévelopper en pire avec la deuxième. Parce qu'une relation, ça se construit et ça se travaille. Tout comme le jardin d'Éden, Dieu voulait que Adam y travaille. Toute relation se travaille, ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas parce qu'on dit « aïe, on s'est marié, on a remis ça à Dieu que ça va marcher ». Non, ça se travaille. Et quand on travaille une relation, eh bien elle s'épanouit et elle porte un fruit extraordinaire. C'est l'appel de tout couple, comme Adam et Ève étaient appelés. Mais Ève va se laisser tenter, elle va prendre le fruit, elle va en croquer. Et Dieu avait dit à Adam « si vous en mangez, vous allez mourir ». Et Ève se dit « non ». Elle ne meurt pas tout de suite. Dieu n'avait pas dit « vous allez mourir tout de suite ». Dieu a dit « vous allez mourir » et ils vont mourir. Adam était à côté d'elle. Donc quand Ève a péché, il aurait pu dire « Adam, et attention ». Ça c'est un texte qui est très intéressant à relire. Adam était à côté d'elle. Il n'était pas au loin. Les hommes, des fois on peut se dire « nous les hommes, on était au loin, c'est la femme, elle est plus fragile, elle est bête, elle a péché ». Pardon, hein, je dis tout haut ce que certains pensent tout bas des fois. Je suis désolé, Adam était à côté d'Ève. Elle était là, il était là. Et on le lit dans le texte biblique quand on est attentif. Ce qui veut dire que Adam était participant du péché d'Ève. Il l'a laissé pécher et il va manger du fruit lui aussi. Et quand Dieu va venir, il va remettre les choses en ordre. Il va lui dire d'abord, Adam, où es-tu ? Parce que Adam a commencé à se cacher, il a vu qu'il était nu et il s'est revêtu. Avant, il était pur, son regard était pur. Maintenant, son regard, au lieu d'être pur dans une relation avec Dieu, commence à être centré sur lui. Le péché a deux éléments. Le péché, c'est une action. On fait des péchés. La racine de tout péché, ensuite, c'est on est centré sur soi et non pas centré sur l'autre. On veut qu'on soit le premier dans ce monde et non pas l'autre. On a une attitude de maître et non pas de serviteur. On veut être comme des dieux. Et dès qu'on fait ça, on est en train de tomber. Parce que on se tourne vers nous-mêmes au lieu de se tourner vers l'autre. Au lieu d'apprendre à aimer, aimer c'est donner à l'autre. C'est être généreux, c'est être gracieux envers l'autre. Le péché c'est de se mettre à la première place. Et le péché sous ses deux formes. Péché comme racine, comme enracinement dans cet égocentrisme, être centré sur soi, qui est la source de tous les péchés. Et ensuite les péchés concrets, les péchés où on va faire, ça commence à se développer. Ève d'abord, elle s'est centrée sur elle. Elle s'est dit, je veux être comme Dieu. Je ne veux plus être dépendante de Dieu. Je ne veux plus d'une relation vivante et joyeuse avec quelqu'un qui est plus grand que moi. Je veux être comme l'autre. Est-ce qu'une fourmi qui voudrait être humaine serait un animal intelligent? Est-ce qu'une petite fourmi, si elle vous dit, moi j'ai envie de conduire une voiture, comment vous allez le faire pour lui expliquer, tu sais, tes petites pattes pour appuyer sur l'accélérateur, elles sont pas très grandes, hein? Puis si tu dois tenir le volant, tu vas avoir du mal aussi, hein? C'est un peu ce qu'on a voulu faire, nous, l'humanité. On a voulu conduire la voiture de maîtriser la création, au lieu d'être partie de la création. Dieu voulait qu'on fasse partie d'une équipe qui travaille ensemble. Nous, on a voulu être les chefs. On n'avait ni les capacités, ni le plan de devenir cela. On était appelé à avoir un rôle d'immense importance dans la création. Adam était celui qui a nommé les animaux. Il était celui qui devait dominer sur la création, la structurer pour qu'elle porte du fruit. Et quand il est tombé, Adam, c'est le début de la chute qui va se répercuter sur toute la création, sur toute cette création au niveau des animaux aussi. Ça va être la chute. Le péché, rappelez-vous, quand vous faites quelque chose de bien, vous donnez un exemple à quelqu'un d'autre. Quand vous faites quelque chose de mal, vous donnez aussi un exemple à quelqu'un d'autre. Et les enfants, est-ce qu'à votre avis, ils imitent plus facilement l'amour ou le péché chez vous? Moi, je vais vous le dire, au cas où vous ne le savez pas encore. Ils imitent d'abord vos péchés avant d'imiter vos qualités et votre amour. Et c'est ce qui va se passer avec Caïn et Abel. Caïn et Abel offrent une offrande. Caïn, son offrande n'est pas acceptée. Pourquoi? On ne sait pas très bien, mais on sait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Dans sa relation avec Dieu, il y avait quelque chose qui n'est pas juste, là où Abel était droit. Caïn, au lieu de se dire, Dieu, pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande? Qu'est-ce qu'il y a qui n'allait pas? Dis-moi. Il n'est pas là pour apprendre, il est là pour faire le maître, et il dit, c'est pas juste dans mon cœur. Je voudrais que mon offrande soit acceptée, et c'est pas juste qu'Abel, son offrande soit acceptée. Il commence à méditer par rapport à cette jalousie qui grandit dans son cœur. Et il arrive jusqu'à un point où il se dit, si seulement Abel n'était plus là, parce que le voir, je vois le fait que j'ai pas été accepté. Je ne veux pas changer, moi. Je veux juste chasser cette honte. Et il va aller dans les champs. Dieu lui dit, Dieu sait ce qui est en train de se passer dans son cœur. Il lui dit, Caïn, le péché est tapi comme une bête sauvage à la porte de ton cœur. Domine sur lui. Que va faire Caïn? Il ne va pas dominer sur le péché. Il va laisser le péché passer de la porte du cœur à entrer dans son cœur. Et il va tuer son frère Abel. Le péché commence à se propager comme une maladie dans toute l'humanité. Ça, c'est l'histoire d'Adam, les chapitres 1 à 4, et Adam et Ève vont avoir un nouveau fils. Parce que si on n'y réfléchit pas, moi quand j'étais nouveau chrétien, je me disais, ok, Abel est mort, avant d'avoir eu des enfants, apparemment il ne reste plus que Caïn, donc ça veut dire que je suis un descendant de ce meurtrier. Est-ce que ça vous réjouirait de penser à ça? D'être un descendant de Caïn, moi j'aimerais pas trop. Il y en a eu probablement, mais Adam et Ève auront d'autres enfants. Ils auront 7. Seth qui sera celui qui donnera naissance à Noé, ensuite à Abraham. Donc il y aura d'autres enfants.
C'est pour ça que le chapitre 4, c'est Caïn, Abel et Seth. Donc ça, le premier, première personne de Genèse, c'est qui déjà ?
Adam.
C'est qui le dernier tout en bas de Genèse ?
Joseph.
Le deuxième de Genèse, c'est ?
Noé.
L'avant-dernier, juste avant Joseph.
Jacob.
Jacob. Ok, le troisième, après Noé.
Abraham.
Après Noé.
Le troisième, après Noé.
Oh, pardon. Le troisième, virgule, après Noé.
Abraham.
Le troisième après Noé, ça serait qui ? Non. Abraham.
Ah non, Abraham, Isaac.
Ça y était presque. Ok, et juste avant Jacob, c'est qui déjà ?
Isaac.
Et celui qui est juste après Jacob, il s'appelle ?
Merci, d'accord, je l'ai vérifié.
Alors, on continue. Noé, lui, il va... vivre la destruction à cause du péché. On va aller un petit peu plus vite, sinon à ce rythme-là, on n'arrivera pas à la fin de Genèse pour aujourd'hui. Le but, c'est un survol pour vous. Noé, il a ce que vous avez aujourd'hui en un peu plus grand. Et pendant 150 jours, il va pleuvoir, le déluge. Toute la terre va être recouverte et Dieu va détruire tout le péché et Noé va continuer parce que lui, il veut avancer avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que Noé est parfait ? Non, on le voit. Il va se saouler, il va y avoir son fils qui va se moquer de lui. On voit que le péché n'est pas mort. Mais au moins, il y a un espoir dans les descendants de Noé. Et Dieu va dire, je ne vais plus détruire l'humanité maintenant, je vais travailler autrement. On va voir comment va être cet autrement. Dieu va accepter que le péché soit arrivé. Merci, il y a un numéro de téléphone pour moi, excusez-moi. Et ensuite, après que Dieu va faire son alliance à travers l'arc-en-ciel avec Noé, il va utiliser la méthode qu'il a préparée. Est-ce que vous pensez que Dieu a été surpris par le péché des êtres humains ? Qu'il s'est dit, zut, j'y avais pas pensé à ça. J'aurais pas dû mettre l'arbre du bien et du mal, ou j'aurais dû mettre un grillage. Et puis le serpent, j'aurais pas dû le laisser être là. Ça serait un Dieu qui est pas très fort si c'était le cas. Donc ça veut dire qu'il avait un plan. Et son plan va passer à travers Abraham, la prochaine personne, les chapitres 11 à 23. Il va appeler Abraham à être fidèle à lui. Et il va l'appeler d'une façon très simple. Il va dire, Abraham, pars, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, et va où je te dirai. Va où je te dirai. Ça veut dire quoi ça ? Commence le chemin. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Des fois, on se dit, si je ne suis pas arrivé à cette ville-là, ça ne va pas. Et avec Dieu, c'est, est-ce que je suis en route ? C'est ça la question. Est-ce que je suis en marche ? Si vous êtes en marche, c'est dans la marche que se trouvera votre force. Si vous ne marchez pas, même si dans le passé, vous avez eu de superbes moments avec Dieu, si vous êtes coupé de Dieu aujourd'hui, ça ne va pas. C'est être en relation avec Dieu au fil du chemin. Et Abraham, pour qu'il puisse avancer, va devoir faire une chose. À chaque pas, se tourner vers Dieu et dire, Dieu, vers où c'est maintenant ? Et Dieu lui dit, bon ben, pour aujourd'hui, on avance dans cette direction-là. Parce qu'Abraham, ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le but de Dieu, c'est pas de dire, ok, tu vas là, et puis une fois qu'on a le plan, qu'on a la carte et qu'on a la direction, on se dit, ben, moi je vais y aller comme je veux. Je vais y aller en passant à gauche, je vais y aller en passant à droite. Et le but de Dieu, c'est pas la ville précise, le but de Dieu... C'est le chemin. Ça sera vrai jusqu'au Nouveau Testament. Vous savez comment on appelait les premiers chrétiens ? Les disciples de la voie, les disciples du chemin, ceux qui marchent. Et Jésus est le chemin, donc c'est marcher avec Jésus. Et déjà Abraham est un disciple de la voie, il marche avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dira aussi, Abraham a vu mon jour. Parce que déjà Abraham marche, comme les chrétiens seront invités à marcher. Et Abraham va marcher, mais quand Dieu lui a promis d'avoir des enfants, il croit que les enfants, c'est juste lui. Il a une femme, elle s'appelle Sarai. Et quand sa femme lui dit, puisqu'on n'a pas d'enfants, tu vas coucher avec la servante et tu auras des enfants. Qu'est-ce qui changerait entre une alliance entre deux personnes et une alliance avec une seule personne. Si l'alliance est seulement avec Abraham, est-ce qu'il peut avoir des enfants avec qui il veut? Ça va, parce que c'est lui l'alliance. Mais si son alliance est avec une personne particulière, une femme particulière, est-ce que là il peut avoir les enfants avec qui il veut? Ça marche pas. C'est ce qui va se passer avec Abraham. Abraham, sur le conseil de sa femme Sarai qui en a marre de ne pas avoir d'enfant, elle lui dit « couche avec ma servante ». Il va coucher avec la servante Agar. Agar va avoir un enfant qui s'appelle Ishmaël. Et cet enfant, Dieu va lui dire à Abraham « je vais le bénir cet enfant parce que c'est ton enfant ». Mais ce n'est pas avec lui que je vais faire mon alliance, c'est avec toi et Sarah, et Sarai d'abord, que je vais faire mon alliance. Et ensuite, on arrive au passage clé, vous voyez le chapitre 17, qui est comme un petit passage entre le début et la fin de l'histoire d'Abraham. Ça, c'est le passage. Le passage où Abraham va réaliser que c'est une alliance entre lui, sa femme et Dieu, et non pas lui et Dieu. Abraham va découvrir que d'abord, il ne connaît pas le nom de sa femme. Il a 100 ans à ce moment-là, en Genèse 17. Il a vécu à peu près 80 ans avec votre femme. Si au bout de 80 ans, je viens vous voir, Dominique et je lui dis « Dominique, j'aimerais te dire une chose. Tu as vécu 80 ans avec ton épouse, vous êtes tout vieux, tu ne la connais pas très bien. Elle ne s'appelle pas Anise, elle s'appelle comme cela. » Quel effet ça fait ? Pour un homme, de se dire j'ai vécu 80 ans avec cette femme et je ne connais même pas son vrai nom. Et dans la pensée hébraïque de l'Ancien Testament, le nom donne accès à un élément clé de la personnalité. Avant, Abraham s'appelait Abraham. Avram, vous voyez d'ailleurs sur le dessin que Abraham, j'ai coupé en Abraham. Vous avez remarqué? En hébreu, Ab ou Av, ça veut dire père. Et Raham, ça veut dire multitude. Avant, il s'appelait Abram. Abram, ça veut dire père élevé. Déjà qu'il n'était pas père, alors en plus, comme nom père élevé, ça faisait désordre. Et Dieu, quand il a 100 ans, il lui dit, tu vas t'appeler père de la multitude. Abraham. Combien les gens ont dû se moquer de lui? Un des auteurs, par exemple, qui s'appelle Watchman Nee, avait écrit dans la vie chrétienne normale, comment on a dû se moquer de Abraham. Quand il disait, je ne m'appelle pas Abraham, mais je m'appelle Abraham. Et tous les gens autour de lui se disaient, quelle rigolade, il n'a pas d'enfant et il demande qu'on l'appelle père de la multitude. Il est fou cet homme. Premier point. Deuxième point, Dieu va lui dire, ta femme, elle ne s'appelle pas Sarai, elle s'appelle Sarah. Sarai, en hébreu, ça veut dire ma princesse. Sarah, ça veut dire princesse. Qu'est-ce qui se passe dans ce changement de nom? Ma princesse ou princesse? Ma princesse. Possessif. C'est une marque du péché. Égocentrisme, tout est centré sur moi. C'est ma femme, c'est mes enfants. Et petit à petit, je veux dire, elle s'appelle princesse. Je ne suis pas en train de vous dire partagez vos épouses avec tout le monde. Hein. Il y a une unité, et là on est clair. Mais il y a une prise de conscience que il n'y a pas Abraham ici, et puis Sarah, la petite servante, la petite femme qui va suivre et qui va faire, il y a Abraham ici, et il y a Sarah ici. C'est des partenaires d'alliance. Dieu veut rétablir ce qui a été cassé au moment du péché. Une des choses qui a été cachée, c'est la relation d'égal entre l'homme et la femme, qui sont obéissants à Dieu et fidèles à Dieu. C'est ce que Dieu veut rétablir. C'est ce que Dieu veut rétablir depuis Abraham jusqu'au Nouveau Testament. Et ça sera l'histoire d'Abraham qui ensuite, à la fin de sa vie, il va avoir Isaac. Isaac, ça veut dire « je ris » parce que Abraham a ri quand Dieu lui en a parlé en Genèse 17 et en Genèse 18. Sarah a ri aussi parce qu'ils se sont dit « c'est impossible ». Mais en même temps que c'était impossible, ils se sont ouverts à la foi en Dieu et Dieu a fait l'impossible. À 100 ans, Abraham a eu un enfant avec sa femme qui avait, je crois, 85 ans à l'époque, qui était stérile, qui avait sa ménopause depuis des décennies. Et ensuite, le danger quand il y a une grande bénédiction, c'est qu'on commence à s'y attacher. Isaac, mon Isaac, vous voyez la chose venir? Mon Isaac, ma Sarah, Sarai, mon Isaac, le béni de son cœur. Abraham, quand il est vieux, la joie de ses vieux jours, c'est qui? Isaac. Quel est le danger? Abraham, qu'il ait appris la relation d'égal à égal avec sa femme, mais qu'il n'ait pas appris que son enfant, c'est plus que son enfant. C'est un enfant que Dieu va utiliser pour bénir l'humanité. Et Abraham ne peut pas se permettre de dire « c'est juste mon chouchou ». Il doit prendre conscience qu'il y a Dieu qui est à l'œuvre dans cette relation. Dieu veut être le père d'Israël, du peuple qui va devenir son peuple. Pour devenir père, il faut que les pères soient soumis à Dieu en toute chose, qu'ils ne mettent rien plus important que Dieu. C'est là, alors que Abraham a marché pendant longtemps avec Dieu, qu'il connaît bien Dieu. Il a marché 25 ans avec Dieu, depuis 75 ans jusqu'à 100 ans. Il le connaît bien. Et il est, je dirais, mûr dans la foi. C'est pas un nouveau croyant à qui Dieu va parler. C'est un homme mûr dans la foi. Et il va lui dire l'impossible. Il va lui dire, prends Isaac, ce fils que tu aimes, et emmène-le dans la région de Moria, et tu vas le sacrifier sur une des montagnes que je te montrerai. Tu vas sacrifier ton fils. C'est une parole qui est choquante. Dieu qui demande de sacrifier l'enfant de la promesse. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Est-ce que Dieu, il aime bien détruire? Il aime bien, comme les châteaux de sable, on les construit, puis après, on donne un coup de pied dedans et on détruit? Non. Dieu a un plan et ne veut jamais détruire, en particulier l'humanité. Mais il veut vérifier une chose. Il est en train de dire à Abraham, « Abraham, c'est qui le premier dans ton cœur? C'est Isaac ou moi? Si c'est moi, montre-le-moi. » Ce n'est possible que parce que Abraham est mûr dans la foi. Quand vous êtes nouveau chrétien, si Dieu vous dit « tu vas sacrifier le petit Maé », non. Évitez ça. Hein? Et c'est le genre de choses qui sont passées une fois dans toute l'histoire de l'humanité. Mais parce que Abraham avait un rôle stratégique. Et Abraham va dire « Dieu, si tu le veux, j'ai confiance que tu vas même ressusciter ce fils. Moi, ma vie, c'est d'être obéissant à toi dans tous les domaines. » Il arrive, et quand il se prépare à sacrifier, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bélier. Normalement, ce qu'on sacrifiait, c'était une brebis, un jeune mouton. Qu'est-ce qu'il va voir qui est pris par les cornes? Un bélier, a ram en anglais. Quelle est la différence entre une brebis et un bélier? Il y en a un, c'est un bébé. L'autre, c'est un papa. Abraham est le papa, Isaac est l'enfant. Ce que Dieu demande à Abraham, ce n'est pas de sacrifier son fils, c'est de sacrifier sa paternité. Il est en train de dire à Abraham, « Abraham, est-ce que tu acceptes que je sois premier dans la vie d'Isaac et que ce ne soit pas toi ?» Parce que j'ai besoin de recommencer l'humanité, mais il faut que l'humanité redevienne servante. Est-ce que tu acceptes ce défi, Abraham ? Et Abraham va dire oui. Et Dieu va confirmer cela parce que c'est un bélier que Abraham va sacrifier, un papa, et non pas une petite brebis, ou un agneau, pardon, j'ai utilisé le mot brebis, c'est plutôt agneau que j'aurais dû utiliser, je ne suis pas très fort là-dessus, brebis doit être féminin je crois, c'est un agneau, et ce n'était pas un agneau, pour le sacrifice c'est un bélier. Et Dieu voulait sacrifier la paternité, tout comme dans toute œuvre que vous faites, Dieu veut que ce soit lui premier. Par exemple, Dieu veut que cette église soit son église, que ce ne soit pas mon église. Si ça devient mon église, elle va mourir. Si c'est son église, alors elle va s'épanouir, parce que Dieu va être à l'œuvre dans cette église. Dans vos vies, vous avez à inviter la paternité de Dieu, qui est une paternité bonne et aimante, pour qu'elle guérisse là où il y a des blessures, pour qu'elle édifie au-delà de vos espérances. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Donc nous avons l'histoire d'Abraham, cet homme visité dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec son épouse, dans sa relation avec un enfant. Parce que Dieu veut renouveler la famille. Son but à Dieu, c'est de pas d'avoir un chouchou, c'est de transformer la famille humaine. Pour que cette famille soit à l'image de Dieu. Qu'elle soit une famille d'amour. Comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, une trinité de relations d'amour. Dieu veut que la famille humaine, l'homme et la femme, soient en équipe, soient des partenaires d'alliance, et que les enfants soient en équipe avec eux progressivement, qu'on invite les enfants à devenir partenaires, pas tout de suite, ça met du temps. D'abord, il faut les corriger, il faut les éduquer, et progressivement, quand ils deviennent adultes, le but, c'est qu'ils deviennent partenaires d'alliance. Comme par exemple, pour Dominique et Anise, avec Alexandre, avec Juliette, pour Héloïse, il faudra d'abord l'éduquer. Ça serait une grave erreur pédagogique d'essayer de lui dire « tu fais ce que tu veux aujourd'hui ». Pour l'instant, elle a besoin d'un cadre. Mais un jour, c'est l'espoir qu'elle soit une partenaire avec vous, qu'il y ait de l'amitié, qu'il y ait de la joie dans la communauté. On arrive à la quatrième personne clé, Isaac. Isaac, on en connaît peu de choses par rapport à lui. Ce qu'on sait, c'est que quand il va être marié avec sa femme, Rebecca, il a 40 ans. Et sa femme va être stérile. Les trois matriarches, les femmes des patriarches, les patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Vous vous rappelez ? Abraham, le dernier de la première moitié, Isaac et Jacob. Jacob, c'est celui qui deviendra Israël, qui aura les 12 fils. Joseph ne sera qu'un des 12 fils. Donc les trois patriarches, c'est qui le premier ? Abraham. Le deuxième ? Isaac. Et le troisième ? Jacob. Joseph n'est pas un patriarche parce qu'il n'est que un des 12 frères. Sinon, ça poserait problème. S'il était patriarche, c'est que ça serait l'histoire des fils de Joseph et non pas l'histoire des fils de Abraham, Isaac et Jacob. Donc on a Isaac, et quand sa femme est stérile, et vous remarquerez que les trois matriarches, Sarah, Rebecca et Rachel, toutes les trois, elles sont stériles. Ce que Dieu veut enseigner, c'est que c'est lui qui donne la vie. Et donc, comme il sait que c'est des personnes clés pour le futur, il va retarder les premiers enfants pour leur rappeler cet enseignement clé. Ce n'est pas vous qui pouvez techniquement fabriquer des enfants, c'est moi qui donne la vie, c'est moi le créateur. Et vous êtes co-créateur avec moi. Avoir des enfants est une expérience extraordinaire, de voir la vie qui vient et qui se transmet. Il y a quelque chose de Dieu qui est à l'œuvre ici. Et en même temps, nous avons à nous rappeler que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas nos propres forces, mais c'est vraiment qu'il y a une grâce dans les enfants. Et Abraham, Isaac et Jacob apprendront cette leçon. Isaac, est-ce que vous savez combien de temps il a prié ? Parce que c'est dans le livre de Genèse, chapitre 25, on voit « Isaac pria » et le verset d'après « Et Rebecca devient enceinte ». On a l'impression qu'il a prié et juste après elle est enceinte. Et on lit 2-3 versets plus tard, on a lu avant qu'Isaac avait 40 ans quand il s'est marié. Vous savez quel âge il a quand il aura les premiers enfants ? 60 ans. Il a prié combien d'années ? 20 ans. Est-ce que ça vous dirait de prier pendant 20 ans pour avoir des enfants ? Tiens, Juliette, ça vous dit ? Non, nous non plus. Personne. Hein ? 20 ans, ils ont prié. Mais c'est des personnes clés et Dieu veut vraiment les préparer à construire de manière cohérente pour que ce peuple soit une bénédiction pour toutes les nations ensuite. Après Isaac, ce sera Jacob. Jacob, lui, il va être né avec son frère Ésaü. Il a quelques problèmes, c'est qu'il n'est pas le premier-né. Et tout le problème de Jacob, c'est qu'il croit que c'est le premier-né qui reçoit la plus grande bénédiction. La tradition de l'époque, c'est que le premier-né, le premier fils, recevait une double portion d'héritage. Vous aviez par exemple, imaginons, vous avez trois enfants, trois fils. Vous répartissez votre héritage en quatre portions. Le premier en reçoit combien ? Deux. Le deuxième ? Une. Le troisième ? Un. Lequel des trois fils vous voulez être ? Le premier. Vous savez que vous aurez le double. Et surtout avec les bénédictions qui étaient promises à Isaac et à ceux qui descendraient de lui, Jacob, lui, il est intéressé par ses promesses. Il est intéressé par Dieu aussi. Mais il va essayer d'obtenir les promesses par ses forces. Il va, quand son frère est épuisé, lui dire... Si tu me vends ton droit d'aînesse, je te donne un plat de lentilles. Et Ésaü est suffisamment bête et soucieux de son ventre avant d'être soucieux de la bénédiction du Père et de la bénédiction de Dieu qu'il dit « À quoi me sert mon droit d'aînesse puisque je vais mourir ?» Est-ce qu'il va mourir vraiment ? Il est juste affamé d'une journée de chasse. Est-ce qu'on va mourir d'une journée sans avoir mangé ? Non. Même si on a travaillé dur, en général, il y a peu de chance. Hein. Mais... Ésaü regarde à son ventre, regarde à son désir et il a peur. Et la peur, c'est qu'il meurt. Donc il va voir ce plat de lentilles, en plus c'est rouge, ça ressemble à de la viande. Il n'a pas réussi à chasser, à obtenir du gibier, donc il se dit il doit y avoir de la viande là-dedans. Pas de chance, il n'y a pas de viande, c'est que des lentilles rouges. Mais Jacob, il ne va pas se préoccuper de lui dire ce qu'il y a dedans. Il va lui dire juste, vends-moi ton droit d'aînesse. Et c'est le chapitre 25. Ésaü va vendre son droit d'aînesse, va mépriser le droit d'aînesse. Ensuite, quand Isaac est vieux, il devrait bénir Jacob parce que il y a eu une révélation, une prophétie qui a été faite à Rebecca, sa femme, que ce serait le plus jeune qui allait être béni. Le problème, c'est qu'Isaac, il aime tellement son chouchou Ésaü que les deux parents ont joué avec les deux chouchous. Ésaü, le fils aîné, était le chouchou de Isaac. Et la maman, Rebecca, son chouchou, c'était Jacob. La maman va jouer les chouchous. Elle va faire par secret, en se déguisant, comme son mari est devenu presque aveugle, elle va faire venir son fils pour qu'il soit béni par erreur. Mais la bénédiction est dite. Et ensuite, le problème, c'est que Jacob va devoir fuir. C'est le début de l'histoire de Jacob. Jacob, chapitre 28 à 36. Jacob, c'est celui qui saisit le talon. Yaakov, en hébreu, ça veut dire Ekev, c'est talon. C'est celui qui saisit le talon. Celui qui supplante. Celui qui renverse l'autre. C'est un nom qui n'est pas très facile à porter. Et c'est pour ça que Dieu va le renverser, ce nom. Il va le transformer en Israël. Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu. Celui qui non seulement va à la rencontre de Dieu, qui marche avec Dieu, mais quand il n'est pas d'accord, il s'accroche à Dieu. Et des fois, on a une image de la foi en se disant, il faut qu'on dise oui à tout. Non. Quelqu'un qui est mûr dans la foi, c'est quelqu'un qui lutte avec Dieu. Et quand il ne comprend pas, quand il ou elle ne comprend pas, dit Dieu, explique-moi, je veux comprendre. Vos questions sont une partie intégrante de votre relation avec Dieu. Non seulement de poser la question, mais de prier et de demander la réponse. Et Dieu répond. Soit à travers des personnes, soit à travers des révélations, soit à travers la Bible, qui est un moyen très important. De mille façons, Dieu nous répond. C'est ce que Jacob va faire. Il va lutter avec Dieu. Il va d'abord être... On va lui montrer que la ruse n'est pas suffisante. Vous savez comment Dieu va l'enseigner pour lui montrer que la ruse n'est pas suffisante? Il va lui donner quelqu'un qui est plus rusé que lui. Isaac va se retrouver avec un beau-père qui s'appelle Laban. Laban, ça veut dire blanc. Laban, il est tout sauf blanc. Il est rusé, tordu, manigancieux. Il va donner une autre fille que celle qu'il a promis en mariage. Ensuite, il va tricher sur le paiement de son fils. Il va essayer de garder parce qu'il voit qu'il y a une bénédiction avec Jacob. Il est plus rusé que Jacob. Et Jacob va voir que c'est seulement par la grâce de Dieu qu'il est délivré, que son intelligence n'est pas suffisante. Des fois, on croit que notre intelligence est suffisante pour pouvoir nous en sortir. Notre intelligence n'est pas suffisante. On a besoin de la grâce de Dieu. C'est l'apprentissage de Jacob qui va prendre comme nom quoi? Quel va être son nom ensuite?
Israël.
Et après, on arrive à la dernière personne de l'histoire, Joseph. Lui, il a une histoire où Dieu lui promet qu'il va être le premier, il est le plus jeune. Et Dieu va l'élever pour être le plus important de tous ses frères. Dieu aime renverser les structures humaines pour montrer que c'est lui qui est à l'œuvre. Au lieu de choisir l'aîné, comme ça serait Ésaü, il a choisi Jacob. Au lieu de choisir Ruben, qui est le plus vieux des fils de Jacob, il va choisir Joseph en particulier, qui va partir comme esclave. Ses frères jaloux vont presque le tuer et vont le vendre comme esclave pour partir en Égypte. En Égypte, il va se retrouver esclave, il sort de l'esclave, il est serviteur d'un homme qui l'estime et qui lui donne un travail agréable. Ensuite, une femme va lui dire « couche avec moi comme il est beau ». Il va dire « non, comment est-ce que je ferais ça à mon maître qui m'a donné tout pour que j'en prenne soin? Comment est-ce que je coucherais avec la femme de mon maître ?» Et il dit « non ». Et ensuite, elle va l'accuser comme quoi il a couché avec elle, c'est ce qu'elle voulait elle, et elle va l'envoyer en prison. Et Joseph va être en prison ensuite. Méprisé par ses frères, envoyé comme esclave, envoyé en prison. Mais en prison, il prie, et Dieu répond à ses prières. Il interprète les rêves de deux personnes importantes, qui vont ensuite, celui qui survit, parce qu'il y en a un qui va mourir, le deuxième, celui qui est les chansons, celui qui apporte le vin au roi. Quand le pharaon va avoir un rêve, il va lui dire, tu sais, j'ai quelqu'un que je connais dans la prison qui pourra interpréter ton rêve. Joseph va sortir de prison, va interpréter le rêve de Pharaon et va lui dire « Tu vas avoir sept années de sécheresse où tu auras aucune pluie, aucune fertilité. Si ce n'est de la pluie, tu auras les récoltes seront très faibles. Mais avant, tu auras sept récoltes très, très bonnes. Pour que ton pays survive pendant les sept bonnes années, tu vas engranger le grain et ensuite, les sept années maigres, tu vas pouvoir distribuer le grain à ceux qui n'en ont pas. » Pharaon trouve que le conseil est bon et va lui dire « puisque c'est toi qui as interprété, c'est toi qui seras capable de gérer ces années. Il devient premier ministre, il n'est plus esclave, il n'est plus prisonnier, il n'est plus méprisé par ses frères, il est premier ministre de l'Égypte. Ensuite, ses frères vont venir dans la pauvreté et Joseph va être tenté à un moment donné de les écraser. Il veut voir s'ils ont changé. Il veut voir s'ils ont changé suffisamment pour qu'il leur dise qu'il leur a pardonné. Il leur a déjà pardonné, mais il ne veut plus être blessé. Il y a une différence entre pardon et manque de sagesse. Vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous fait du mal, mais s'il continue à blesser cette personne, vous devez protéger votre famille. Si par exemple, imaginons que Thierry, vous connaissiez quelqu'un qui vous fait du mal. Vous prenez de la distance, vous pardonnez à la personne, mais vous savez que cette personne, si elle ne change pas, elle va faire du mal à votre famille. Est-ce que vous allez dire, oui, je t'ai pardonné, on est chrétien, viens, amuse-toi avec nos enfants? Non. Ça serait un manque d'amour pour vos enfants. Vous devrez protéger votre famille. C'est ce que Joseph va faire, il va tester voir s'ils sont prêts à faire du mal au nouveau petit frère Benjamin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, par une ruse, et là c'est un peu spécial, il va emprisonner Benjamin. Et il va regarder comment ils réagissent, s'ils se réjouissent, tout comme ils se sont réjouis quand lui a été prisonnier, envoyé en esclavage. Et là, il voit qu'ils ont changé. Il voit qu'ils vont se battre et qu'ils vont dire, non, un des plus âgés, Judas, va dire, s'il te plaît, ça va faire tellement de mal à notre père, déjà qu'il a beaucoup souffert à cause du premier Joseph, de ses deux fils, de sa femme Rachel, il en est presque mort. Si on lui dit que Benjamin est retenu en esclavage, il va en mourir. Prends-moi, moi, en esclave à la place de lui. Là, Joseph voit ce qu'il cherchait, une vraie repentance. Il voit qu'il peut se révéler à eux et il leur dit, je suis Joseph, votre frère, je vous ai pardonné, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous tuer, j'en ai le pouvoir, je ne vais pas vous tuer, je vous pardonne et je vais même vous protéger moi, là où vous m'avez blessé, moi je vais vous protéger en Égypte. Et ça va être la fin de Genèse, la réconciliation entre les 12 frères qui ensemble vont être la nation d'Israël. C'est la fin du livre de Genèse. Est-ce que vous pouvez cacher les feuilles? Alors, on va commencer dans ce sens-là maintenant, on a déjà commencé dans ce sens-là. Alors, Pierre, c'est qui le troisième personnage de Genèse? Vas-y, à toi de poser la question à ton épouse. Le cinquième personnage de Genèse. Donc le deuxième de la deuxième moitié. Il y en a six en tout. Trois plus trois. Jacob. Le quatrième de Genèse. La première partie, tu en as trois. Le quatrième, juste après la première partie, c'est Isaac. Très bien. Le quatrième, c'est Isaac. Anise, à toi de demander à quelqu'un. Abraham. Le troisième de la première partie, exact. Alexandre, à toi de poser la question. C'est qui avant Abraham? Noé, à toi. Joseph. Dominique, très bien. Le dernier, c'est Joseph.
Alors, Thierry, c'est qui le papa de Joseph?
Le papa de Joseph.
Jo, juste avant. Très bien. À toi.
Quel est le troisième personnage de la deuxième partie?
Joseph. Vous commencez à être à l'aise? Je vais vous demander une chose. Dans les prochaines semaines, je vous donne le droit et même l'encouragement quand vous vous disiez bonjour. Par exemple, bonjour Dominique, comment vas-tu? C'est qui le deuxième personnage de la deuxième partie de Genèse?
Alors, c'est Jacob.
Voilà. Et jouez ce jeu ensemble. Si la personne ne répond pas, vous l'embêtez pas, vous lui dites c'est telle personne. Mais encouragez-vous, sachez que
ces petites connaissances vont vous aider à connaître tous ces personnages clés. Posez-vous des questions entre vous, pour, comme des jeux, avec les enfants, essayez de leur expliquer, si vous pouvez avec le graphique, etc., de jouer ensemble. Faites-en un jeu. Le but n'est pas de punir, mais d'encourager et de jouer ensemble à découvrir la Bible et à la connaître bien, tous les personnages clés, qui est premier, qui est ensuite, comment ils s'articulent ensemble. Ce qu'on a vu dans Genèse, c'est comment Dieu crée par la parole et qu'il veut créer à travers des familles. On voit comment la première famille humaine, Adam et Ève, est détruite par le péché. On voit comment avec Noé, c'est toute l'humanité qui est imprégnée. Avec Abraham, c'est le début de la solution, en visitant la relation entre Abraham et sa femme Sarah, en visitant la relation entre Abraham et son fils Isaac, que Dieu soit premier dans les trois. Pour la relation entre Abraham et Sarah, le point clé pour mettre Dieu en premier, vous savez comment Dieu a fait ça ? Non seulement par le changement de nom, mais la circoncision. La circoncision, c'est au plus intime de la relation entre un homme et une femme qu'on se rappelle que Dieu est premier. Non pas parce que c'est un rabat-joie, c'est parce qu'il a donné même la sexualité pour bénir la sexualité dans le cadre du mariage. Dieu veut bénir. Son but, c'est pas d'être un rabat-joie, c'est de bénir. Mais quand l'humanité commence à devenir maître et égocentrique, le lieu de la sexualité est un des lieux où il y a le plus de péché dans ce monde. Alors que Dieu veut que ça soit un des lieux de bénédiction dans un couple, de joie et de partage. C'est ce que Dieu voulait déjà au moment de Abraham et Sarah. Et donc, rappelez-vous, il visite la relation Abraham et Sarah, la relation Abraham et Isaac. Cette première famille va être clé. Ensuite Isaac, ensuite Jacob et Joseph. Et c'est la continuation du plan de Dieu. Et le descendant de la famille d'Abraham, de la famille d'Israël, que Dieu a déjà en vue, il s'appelle Jésus, lui qui va descendre d'Abraham, qui sera l'accomplissement parfait des promesses faites à Abraham. Maintenant, j'aimerais qu'on prie et que vous vous posiez la question dans votre semaine, est-ce que nous avons remis toutes nos relations à Dieu ? Est-ce que notre famille, chacun d'entre nous, et nos relations sont remises à Dieu ? Dieu n'est pas un voyeur, Dieu est un amoureux. Dieu est un amoureux délicat qui ne s'impose pas, mais qui veut nous construire, nous édifier. Pour cela, on doit le mettre en premier. Est-ce qu'il est premier dans nos relations de couple, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec nos amis, dans nos relations avec nos parents, dans nos relations avec chacun qui nous est proche ? C'est la question que j'aimerais que vous vous posiez pendant cette semaine, en vous rappelant de l'enseignement de Genèse, où Dieu visite ses relations, apporte le pardon aussi, comme entre Joseph et ses frères. Visite les relations père-enfant, parent-enfant. Toutes ces relations, Dieu veut les visiter. Dans vos familles aussi. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est ce que j'aimerais vous demander. On va prier. Et comme on le fait chaque semaine, vous aurez une minute ou deux pour parler à Dieu en secret de votre cœur par rapport à ça. Si vous voulez demander de l'aide à Dieu et demander à Dieu de visiter certaines relations que vous sentez que Dieu veut visiter. Ouvrons ce temps de prière par un mot. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta pluie. Aide-nous à canaliser tes bénédictions là où nous en avons besoin dans nos vies. Bénis chacun de mes frères et sœurs ici présents pour qu'ils puissent canaliser ta grâce, cette grâce qui veut transformer toutes les familles, qui veut nous transformer là où chacun en a besoin. Bénis mes sœurs, bénis mes frères. Parle-nous pendant ce temps et pendant cette semaine par rapport à nos familles. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, merci, merci pour ton amour, merci pour l'amour de ton Père, qui n'a pas laissé l'humanité à sa détresse, mais qui est venu la visiter, qui est venu visiter des hommes, qui est venu visiter des femmes, qui est venu visiter des enfants, qui est venu visiter des familles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Père. Gloire à ton saint nom. Merci Esprit Saint de nous visiter pendant ces semaines, de visiter nos familles, afin que nous puissions accueillir toutes les bonnes choses que tu as en vue dans nos familles, dans nos relations, afin que tu guérisses là où il y a besoin de guérison, tu édifies là où il y a besoin d'édification, tu construises nos familles toujours plus pour être des reflets de ta Trinité, de ton amour, de ta sainteté, Seigneur Jésus-Christ. Amen.